Radio Canut 102.2, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. Vous le disais, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes sur Radio Canu, le 102.2, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis soirs, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, du groupe lyonnais de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On est ensemble pour une heure d'actualité sociale, politique, syndicale et autres, d'un point de vue libertaire bien sûr, comme toujours sur cette antenne de Radio Canu. On vous rappelle que vous pouvez rencontrer les militants et militantes de l'UCL à la librairie La Plume Noire, librairie libertaire autogérée par le groupe de Lyon de l'UCL sur les pentes de la Croix-Rousse, au 8 rue Diderot, près de la place Satonnet. Et la librairie est en général, normalement, sauf contre-ordre, ouverte le mercredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 15 à 19h, sauf si on est appelé à battre le pavé pour diverses raisons. Et ça arrive assez souvent. Voilà, et puis bien sûr, tous les mercredis sur cette antenne. Et puis on peut aussi se retrouver, si vous loupez l'émission en direct, vous vous rappelez que sur le site de Radio Canu, sur la page de l'émission, vous pouvez réécouter toutes les émissions passées dès le lendemain, dès 24 heures après, puisque celles-ci sont écoutables en ligne. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous de l'UCL. Et puis Rémi, je te laisse la parole pour différents rendez-vous qui vont arriver dans les jours à venir.
Salut David. On commence avec le week-end des 17 et 18 juin dans la vallée de la Maurienne, un rassemblement contre le chantier du Lyon-Turin. Pour un peu de contexte, on peut lire sur le site des Soulèvements de la Terre que depuis plus de 30 ans, un projet de chantier ferroviaire titanesque impliquant le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins anime l'imaginaire mégalo et détraqué du consortium TELT, tunnel Euralpin Lyon-Turin, allié des décisionnaires politiques « visionnaires » entre guillemets et de groupes tels que Vinci, Bouygues ou Eiffage. Bien que le transport de marchandises stagne depuis 1994, que la ligne existante ne soit utilisée qu'à 20% de sa capacité de fret, le consortium TELT envisage de creuser 11 tunnels, dont le plus grand d'Europe, de 57 km. Et tout cela pour faire gagner aux voyageuses et aux voyageurs et aux marchandises seulement 1h25 entre Paris et Milan. Une façon simple de s'assurer des décennies de chantiers juteux propulsés par plus de 30 milliards d'argent public. Aujourd'hui, dans la vallée de la Maurienne et en Val di Susa, en Italie, les travaux préparatoires du tunnel de base ont débuté et déjà des dizaines de sources drainées par des machines ont tari ou perdu du débit. Des nappes phréatiques ont été percées, 1500 hectares de terres agricoles seront artificialisées. Tout ça pour mettre en place des zones de chantier, entreposer des millions de mètres cubes de gravats arrachés à la montagne, ouvrir des centrales à béton et des carrières nécessaires à l'extraction des matériaux et à la construction des tunnels. Depuis une dizaine d'années en France, collectifs et associations se mobilisent pour montrer le non-sens absolu de ce projet, mais cette lutte dépasse les frontières. En Italie, le mouvement populaire Notav se bat depuis 30 ans pour préserver sa vallée, ses montagnes et la vie qui y foisonne, et ce malgré une violente répression et une drastique militarisation des territoires. Donc le collectif Soulèvement de la Terre appelle à nous retrouver en masse le week-end du 18 et 17 juin dans la vallée de la Maurienne pour une manifestation internationale déterminée. Plus près de nous, ce vendredi 2 juin après-midi, le planning familial 69 organise une fête des luttes devant son centre de santé sexuelle au Tonkin, c'est à Villeurbanne. Le planning rappelle qu'elle est une association militante féministe d'éducation populaire qui lutte pour l'égalité et la possibilité pour chaque personne de vivre des relations et une sexualité épanouie, à l'abri des violences, des grossesses non prévues et des infections sexuellement transmissibles. Depuis le début de l'année, on a beaucoup vu les camarades du planning hein, dans les luttes sociales. Ces camarades luttent notamment contre la casse des services publics, des droits sociaux et les menaces sur les libertés des associations par le gouvernement, ainsi que contre les discriminations envers les personnes du fait de leur genre, identité, race, situation sociale et l'accès aux droits et aux services publics. Le planning milite aussi pour un service public financé à la hauteur de leurs besoins, pour le retrait de la réforme des retraites et de toutes les réformes visant à attaquer les droits sociaux et pour le droit à l'avortement et à l'éducation à la sexualité qui sont sans cesse remises en question par les réactionnaires. Le planning souhaite donc célébrer joyeusement toutes ces luttes avec les habitantes et habitantes du quartier et continuer à faire connaître leur travail et revendiquer pour toutes et tous le droit à une vie décente et libre de nos choix. Durant cet après-midi, il y aura donc des jeux et animations pour tous les âges, mais aussi des stands de découverte du planning familial et un grand goûter partagé. Ce sera ce vendredi après-midi devant le centre de santé sexuelle du planning au Tonkin à Villeurbanne à partir de 14h. Et vous pourrez ensuite enchaîner avec la soirée de lutte le même jour à l'annexe de l'espace communal de la Guillotière. C'est au bénéfice principalement de la caisse de grève des cheminots et cheminotes de Lyon-Pardieu dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Cette soirée organisée par le comité de lutte en lien avec les cheminots et cheminotes se veut un temps politique fort mais également convivial permettant de se retrouver et de lutter dans des cadres plus souples. Au programme repas commun à prix libre, discussion avec les grévistes, table infopresse, suivi d'une soirée avec la présence de musiciennes et de musiciens. L'entrée est gratuite, la soirée prend fin à minuit et on nous indique qu'il y aura de la nourriture et de la bière disponible. C'est au 27 rue Salomon Reynard, dans le 7e à Lyon. Et puis pour commémorer la mort de Clément Méric, militant antifasciste assassiné il y a 10 ans par des nervis fascistes, il y aura des rassemblements dans toute la France, d'abord les 3 et 4 juin à Paris, puis plus proche d'ici, le lundi 5 juin, jour de sa mort, à Chambéry, devant le palais de justice. Et on termine les annonces avec Rapport de Force, ce site d'information qu'on aime bien et qui recherche en ce moment 1000 soutiens pour pouvoir se développer. 1000 soutiens pour sortir Rapport de Force du mode survie. En effet, leurs ressources sont nettement insuffisantes pour une rédaction qui compte 3 journalistes à temps partiel, à temps très partiel même, précise-t-il. Pour rémunérer leur travail, il faut multiplier par 2 ou presque les 20 000 euros de dons enregistrés l'an dernier et par 3 pour permettre des contrats de travail à temps complet qui leur permettraient de sortir de la précarité et permettraient aussi un suivi plus large des mouvements sociaux. D'où cette campagne cap vers les 1000 soutiens par an qui fixe une perspective qu'ils aimeraient atteindre avant la fin de l'année. Par conséquent, si vous les lisez régulièrement et appréciez le travail et le ton singulier de Rapport de Force, n'hésitez pas à participer à hauteur de vos moyens à ce qu'ils continuent à mettre les luttes sociales en avant.
Et puis, bien évidemment, les rendez-vous aussi à court terme, et cette fois-ci à Lyon, mais partout en France. Vous en avez entendu parler, c'est bien sûr la nouvelle journée de grève interprofessionnelle mardi prochain, mardi 6 juin. On va vous en parler un peu plus longuement, parce que, contrairement à ce que le gouvernement voudrait faire croire, la lutte n'est pas terminée, le mouvement n'est pas retombé, la colère est toujours là contre cette réforme brutale et injuste, et mardi prochain, ça sera une nouvelle occasion d'aller battre le pavé et d'exprimer très clairement notre insatisfaction et notre colère partout en France contre cette réforme, on le dit, qui est profondément injuste et contre laquelle on tient à s'élever. On en parle un peu plus, on donne tous les rendez-vous, enfin on peut déjà le dire, à Lyon la manifestation, il n'y aura pas grande surprise, elle aura lieu à 11h à la manufacture des tabacs, en direction de la place Bellecour, et puis on parle un peu plus de ce contexte social et de la nécessité de réussir, même si parfois on peut se désespérer après ces nombreuses journées de grève, on en est quand même presque à la 20e journée de grève interprofessionnelle. On va revenir un peu sur les raisons du pourquoi voix sur la nécessité de se mobiliser, sur l'importance de celle-ci. Après une première pause musicale, dans cette émission Idées Noires, Rémi, tu nous parlais de la commémoration de l'assassinat de Clément Emmerich par, tu as si bien employé l'expression, des nervis fascistes, il y a déjà maintenant quelques années. Et ben, justement, on va retrouver la brigade à Flores Magone, parce que, petit clin d'œil, à Paris, ce week-end, il y a tout un week-end d'hommage à Clément Emmerich. Il y a deux soirées festives de concerts, à la fois militantes, la lutte et la fête, une soirée hip-hop et une soirée plus rock, punk, oi, et notamment, il y a la brigade à Flores Magone qui joue en tête d'affiche, en concert, en hommage à Clément Emmerich au cours de cette soirée, de ce festival antifasciste. Et ben, on retrouve justement la brigade à Flores Magone qui, avec le morceau Partisan, rend hommage à tous les partisans, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, ceux qui ont toujours lutté contre le fascisme, ceux qui l'ont payé de leur vie, comme récemment Clément Emmerich. Voilà, c'est notre première pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission de l'UCL. Partisans. Et c'est enregistré en concert, en live, à Genève, justement, au cours d'un précédent festival antifasciste en 2003, il y a maintenant 20 ans. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans, nous chante la brigade à Flores Magone. La brigade à Flores Magone, on vous le dit, qui seront en concert ce week-end à Paris, dans le cadre de ce festival et de ce week-end de concerts, débats, manifestations, en hommage à Clément Emmerich, hein, en commémoration des 10 ans de son assassinat, puisque c'était maintenant il y a 10 ans que Clément Emmerich a été assassiné par des nervis fascistes. Voilà pour cette première pause musicale sur cette émission Idées Noires. On vous le disait juste avant, un des autres rendez-vous important dans toute la France. Ça va bientôt être, ça va bien sûr être la journée de grève interprofessionnelle de mardi prochain, mardi 6 juin. C'est annoncé déjà depuis quelque temps. On connaît ce rendez-vous depuis les manifestations du 1er mai dernier. Bien sûr, beaucoup l'ont trouvé un peu tardif, cette journée après le 1er mai, attendre plus d'un mois pour rythmer la mobilisation contre les retraites. Ça avait peut-être parfois un arrière-goût de défaitisme et d'abandon. Néanmoins, il faut reconnaître que depuis le mois de janvier, le mouvement social et le mouvement syndical plus particulièrement a été mis à rude épreuve et n'a pas démérité dans sa mobilisation et dans le rapport de force qui a été instauré face au gouvernement et au-delà de ça, face aux classes dirigeantes contre ce projet de réforme des retraites. Peu importe quels que étaient les millions de personnes qui sont descendues dans la rue, quelles qu'ont été les actions de blocage, les manifs spontanées de colère et de révolte qui sentaient l'insurrection parfois le soir dans les rues de nos villes. Le gouvernement a tenu bon, le gouvernement n'a pas plié parce que finalement celui-ci est aux ordres d'une classe dirigeante capitaliste et libérale internationale, de plans d'ajustement structurel dictés depuis Bruxelles et qui impose que la pression sur le monde du travail soit accentuée, que les salariés soient pressés un peu plus et la retraite, qui n'est rien d'autre, on ne rappellera jamais assez, qu'un salaire différé, c'est-à-dire de l'argent qu'on a gagné au cours de notre vie d'actif, nous soit reversé un peu plus tard pour nous garantir des jours heureux, comme disait l'esprit de la résistance, pour nous garantir le repos, le juste repos du travailleur, comme pourtant le prévoit lui aussi le préambule de la Constitution, et ben celui-ci soit différé de 2 ans et que cette loi injuste nous vole 2 années de retraite, 2 années de repos, qui sont bien souvent les meilleures années, celles où on vient juste de quitter sa vie d'actif, où on est le plus en forme, où on est encore dans le rythme de faire de nombreuses choses et où on est en meilleure santé et où on peut en profiter. Et ben, c'est pas de cette oreille que l'entend le gouvernement et les classes dirigeantes qui ont décidé de paupériser un peu plus nos vieux jours, d'accentuer la pression sur le monde du travail et en effet de maintenir droit dans leurs bottes cette réforme qui fait passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Pourtant, le dernier mot est-il dit ? Bah, il faut se dire que non, que le dernier mot n'est pas encore dit, que les dernières cartouches ne sont pas encore tirées et que peut-être qu'on peut encore inverser la tendance, même si en effet y a un sentiment d'usure et de fatigue après toutes ces journées, ces 17 ou 18 journées de grève interprofessionnelle qui ont été menées et qui, malgré l'ampleur, la détermination et la force qu'elles ont eues, n'ont pas réussi à faire plier le gouvernement. Pourtant, vous l'avez peut-être vu dans les médias, pas plus tard qu'hier, les 8 principales centrales syndicales qui composent l'intersyndicale nationale se sont réunies pour réaffirmer leur appel à tous les salariés à se mettre en grève et à manifester donc mardi prochain, mardi 6 juin, contre la réforme des retraites. Et puis au-delà de ça, pourquoi cette date ? Parce que 2 jours plus tard, le 8 juin, ça va être les députés qui vont se pencher sur une proposition de loi transpartisane d'abrogation de cette réforme. Alors on sait bien sûr, nous, en tant qu'anarchistes, qu'on se fait peu d'illusions sur les changements sociaux qui viendraient de la délégation de pouvoir et de la représentation politique. On l'a bien vu, les espoirs qui avaient été mis dans le rôle des députés au moment du vote de cette réforme ou des notions de censure ont été que des désillusions, même si parfois c'est pas passé loin. On sait que c'est par l'action directe, par l'auto-organisation sur le terrain et la lutte sociale qu'on peut réellement changer les choses. Mais si justement jeudi prochain, le 8 juin, il y a une petite chance que les députés votent cette motion, cette loi transpartisane d'abrogation de la réforme, c'est peut-être que mardi, il y aura eu encore des centaines de milliers de personnes dans la rue qui auront réappelé à ceux qui se prétendent être les élus de la nation que le peuple, les travailleurs et les travailleuses, ils n'en veulent pas de cette réforme, ils n'en veulent pas et qu'ils sont toujours là dans la rue et qu'ils souhaitent toujours la mettre à la poubelle. C'est le sens de cette journée de mardi, c'est ce qu'il va falloir dire. Et puis au-delà de ça, on peut que saluer aussi les positions de l'intersyndicale qui, au-delà de cette mobilisation pour l'abrogation de la réforme des retraites, a décidé d'appeler également à se mobiliser sur d'autres avancées sociales et de mettre en avant d'autres sujets qui pourraient nourrir de nouvelles mobilisations dans les mois à venir, notamment autour de l'égalité homme-femme ou autour des questions de l'environnement, histoire de ne pas oublier que la lutte sociale et la lutte pour le climat, elles vont dans le même sens et elles concernent les mêmes personnes et c'est le même futur qui est en jeu. En tout cas, autour de tout ça, l'intersyndicale, on vous le disait, elle appelle très clairement les travailleuses, les travailleurs, les jeunes, les retraités, à faire donc de mardi prochain, du 6 juin, une grande journée de grève et de manifestation sur l'ensemble du territoire pour, on l'a dit, hein, avant tout gagner le retrait de la réforme des retraites et puis aussi d'autres avancées sociales. On le répétera jamais assez, cette réforme, elle est brutale, elle est injuste pour les travailleurs et les travailleuses, mais aussi pour la jeunesse, qui ont tous et tous bien compris depuis déjà plusieurs mois qu'ils devront travailler plus longtemps, sans que jamais le patronat et les employeurs publics, eux, ne soient mis à contribution d'une manière ou d'une autre pour financer le système des retraites. C'est tout simplement 2 ans de notre vie, 2 ans de notre repos, mais aussi 2 ans de salaire gagné au cours de notre vie d'actif qui vont nous être volés. Et on peut rappeler d'ailleurs que la question du salaire, la question des retraites, c'est des questions qui relèvent profondément de choix de société et de partage des richesses. Et que dans ces choix de société, de choix de partage des richesses, eh ben, se pose bien sûr au-delà des retraites et des pensions aussi la question de l'augmentation des salaires, notamment dans une période d'inflation, la question des minima sociaux, la question des bourses d'études, toutes ces questions-là, pensions, retraites, augmentation des salaires, minima sociaux, bourses d'études, eh ben, ça doit être une priorité pour le mouvement social. Et on doit aussi ne pas oublier que le SMIG doit demeurer un salaire d'embauche et ne peut absolument pas être une trappe à bas salaire qui maintient les salariés au SMIG tout au long de leur carrière professionnelle et qui fait que ceux-ci restent dans la précarité et frôlent avec les portes de la misère tout au long de leur carrière professionnelle. Et puis bien sûr, on n'oubliera pas aussi la fonction publique, hein, la fonction publique où l'État doit être monté du doigt, lui qui a timidement augmenté le point d'indice des fonctionnaires cette année alors qu'il était gelé depuis quasiment une vingtaine d'années. Là aussi, la fonction publique doit bénéficier d'un nouveau partage des richesses, d'une part sous forme d'augmentation de salaire pour ses travailleurs et travailleuses, mais au-delà de ça, de moyens supplémentaires pour développer les services publics en termes de santé, en termes de culture, en termes d'éducation, en termes de transport, parce qu'on ne le répétera jamais assez, plus les services publics sont développés dans une société, plus cela témoigne d'une certaine forme de redistribution des richesses, parce que les services publics, c'est permettre d'assurer une réponse à des besoins fondamentaux des populations, quel que soit le niveau de vie de ceux-ci, que tout le monde doit avoir accès à la satisfaction des biens, des besoins essentiels en matière de santé, d'éducation, de déplacement, de culture et autres. Et ça, ça passe par une politique de développement des services publics, des embauches de personnel, des moyens pour avoir des services publics de qualité. Et là aussi, ça s'inscrit dans une politique de redistribution des richesses. En tout cas, on sait qu'aucune branche professionnelle ne doit avoir des minima qui doivent être inférieurs au SMIG. On sait qu'aucune pension pour une carrière complète ne doit être elle aussi au-dessous du SMIG. Partir à la retraite avec 700, 800, 900 euros, comme c'est encore le cas de trop de personnes aujourd'hui, c'est quelque chose de scandaleux et c'est quelque chose qui maintient le grand âge dans la précarité et dans la misère. Et puis on sait aussi que l'égalité salariale femme-homme qui est pourtant affirmée dans la loi ne doit pas être simplement une question de principe affirmée dans la loi mais doit être une réalité concrète qui doit être mise en place aujourd'hui sans délai. On sait que selon les secteurs il peut y avoir encore de 10 à 30% d'écart à travail égal où il n'y a pas le salaire égal entre les femmes et les hommes. Et puis par rapport au seniors, par rapport à tous ceux et toutes celles qui sont en fin de carrière, on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a nécessité à mettre en place de réels dispositifs de reconversion, des retraites progressives pour justement faire face à la pénibilité, faire face aux risques professionnels, que la totalité des critères de pénibilité qui ont été par exemple supprimés en 2017 eh ben, doivent être aujourd'hui réintégrés, réintroduits pour pouvoir permettre de vrais départs anticipés pour tous ceux qui ne peuvent déjà pas travailler jusqu'à 62 ans correctement et qui le pourront encore moins jusqu'à 64 ans. En fait, on pourrait dire que pour protéger la santé des salariés, les commissions de santé, de sécurité et de conditions de travail doivent être obligatoires dans les entreprises de 50 salariés et plus, mais elles doivent surtout avoir des droits et des moyens renforcés pour ne pas être des coquilles vides et pour pouvoir réellement fonctionner et pour pouvoir défendre l'intérêt des salariés en fin de carrière et les conditions de travail de toutes et tous. On parlait de l'égalité salariale entre femmes et hommes, mais cette égalité femmes-hommes dans le monde du travail, elle dépasse aussi la simple question des salaires. Et mardi prochain dans la rue, en même temps qu'on se battra pour défendre nos retraites, c'est peut-être aussi des choses qu'il faut mettre en avant. Le fait qu'il faut revoir en profondeur l'index égalité salariale, qu'il faut revaloriser les métiers féminisés, majoritairement les moins bien rémunérés, qu'il faut proscrire les temps partiels qui sont trop souvent subis par les travailleuses, parce que c'est elles en priorité qui s'arrêtent ou qui se mettent à temps partiel pour assurer les tâches domestiques et en priorité pour s'occuper des enfants. Et puis, il faut aussi instaurer un indicateur pour suivre le déroulé de carrière. Ça, c'est des propositions qui sont portées par l'intersyndicale, qui sont pertinentes et qui renforceraient d'ailleurs l'équilibre financier du système des retraites par répartition. On sait qu'au-delà de toutes ces questions-là, il y a aussi des dispositions à prendre et des choses à mener dans le monde du travail contre les violences subies par les femmes au monde du travail, les violences et le harcèlement au travail, bien évidemment en premier lieu les violences sexistes et les violences sexuelles qui doivent être pointées du doigt, qui doivent être mises en cause et dont pour lesquelles une politique de dénonciation et de prévention doit être impérativement mise en œuvre. Et puis, si la question de l'égalité homme-femme va être une des questions fondamentales portées par le mouvement social dans les luttes syndicales à venir, et que ça commence dès mardi prochain dans la rue, on le disait, l'autre grand thème aussi dont le mouvement syndical ne peut pas se passer, dont le mouvement social ne peut pas faire abstraction, c'est aussi les luttes pour l'environnement. On le sait qu'aujourd'hui, la question climatique est un enjeu fondamental, qu'on ne peut plus continuer à revendiquer des augmentations de salaire, des augmentations d'embauche qui passeraient par une politique productiviste industrielle, qu'aujourd'hui, il doit y avoir des droits et des prérogatives supplémentaires qui doivent être donnés aux représentants du personnel afin d'agir pratiquement et efficacement pour exercer leur mandat en ce qui concerne la pollution, la production, le recyclage, etc. Toutes les mesures qui peuvent défendre l'environnement. Et puis surtout, on doit se poser la question, et nous, on y est particulièrement attentifs en tant que communistes libertaires, qu'est-ce qu'on produit, dans quel but, comment et pour quelle société, qu'est-ce qui est des productions socialement utiles et qu'est-ce qui est des productions socialement inutiles, voire nuisibles pour la société et pour le climat. C'est aujourd'hui bien souvent un système capitaliste qui marche sur la tête à grands coups de consommation, de productivisme, de publicité qu'il faudrait remettre en cause. Tout ça, c'est des choses qu'on doit porter ensemble, qu'on doit porter au sein du mouvement social. Ce mouvement social, on se retrouve mardi prochain dans la rue pour défendre le système des retraites, pour demander l'abrogation de cette loi brutale et injuste qui allonge le temps de travail. Mais il ne faut pas le voir comme un barouf d'honneur, bien au-delà. On n'a pas envie de tourner la page. Ensemble, unis et déterminés, on doit continuer pour gagner le retrait de la réforme, pour le progrès social dans son ensemble, pour plus de justice sociale et puis pour commencer à réfléchir à une autre société qu'on veut construire, qui pour nous, militants de l'Union communiste libertaire, est bien sûr une société plus juste, plus solidaire et plus libertaire. C'est pour ça qu'on sera profondément dans la rue, encore une fois, mardi prochain, mardi 6 juin, partout en France. On appelle à être en grève, grève interprofessionnelle, et à manifester. On vous le rappelle, la manifestation à Lyon, elle aura lieu à 11h au départ de la manufacture du tabac de Sans Souci dans le 8e arrondissement en direction de la place Bellecour. Voilà, c'était cette page sociale sur laquelle on voulait revenir et sur la nécessité de ne rien lâcher, de poursuivre la lutte qu'on voulait évoquer dans cette émission Idées Noires. Et à la mi-temps de l'émission, 20h30, Idées Noires, 20h, 21h, tous les mercredis sur ce 102.2 de Radio Canu. Et ben, on va faire une seconde pause musicale et on va retrouver Rapace.
Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Sans révolte contre l'ordre existant, contre le vieux monde. Voilà ce que je crois. et j'espère le voir bientôt craquer ce vieux monde.
Éteins les sirènes de la police et entends ces prémices d'une liesse qui ne cesse d'augmenter dans les coulisses. Tu connais ces lions tenus en laisse qui dans leur cage rugissent. Les bourgeois stressent que les prolos de tous les pays s'unissent. Tu le sais depuis longtemps, on n'a rien à perdre que nos chaînes. Celui qui ne bouge pas, ne les sent pas et ne se donne pas la peine de penser autrement, car sinon la liberté serait sienne. On a un monde à gagner, sors de cette merde et dégaine. Soyons révolutionnaires, proclamons haut et fort ce qui se passe. L'histoire de toute société n'est que l'histoire de lutte des classes. Une idée devient une force quand elle s'empare des masses. Alors forme-moi un seul point, si on veut que le capital trépasse. Tu ne te sens chez toi nulle part, car le spectacle est partout. Si tu penses te faire représenter, tu creuses ton propre trou. Dans ce libérateur, c'est toi, car patron et syndicat sont unis dans la peur commune de la révolte du prolétariat.
Oui, c'est ma rage qui te parle. Des garapes, ça tabasse, c'est des tracks. Mise en rap, mise en acte, pour qu'on capte ce qui se passe et qu'on passe à l'attaque. Prends les armes, ça sent le carnage, c'est l'assaut final. Ce vieux monde est malade, c'est la phase terminale. La violence en cascade, stigmate de la débandade. C'est la guerre sociale, remballe tes appels au calme. Camarade Panam, réclame des barricades. Un mortal combat face aux clébards des bourgeois. Les chacals de l'État voudraient nous voir aux abois. Mais on lâche pas, on ne peut pas, on ne vit que pour ça. Abolir les classes, la victoire du prolétariat. La population en marche pour détrôner les monarques. La colère tenace pour affronter les matraques. On rattrape notre retard sur le cours de l'histoire. On arrache le pouvoir au costard pour sortir de ce cauchemar.
Quoi ? Le prolétariat, la richesse, elle est en moi. Elle est comme vous. Collectif des garapes, écoutez ça. Quoi? Etnas, j'ai avec qui Rémito aussi. Eh ben voilà mon petit tempo, ma petite participation, mon poteau. Mon utopie. Eh ouais les gars, rap à cette heure-là. Enchanté. Délicat, ça passera, ça passera après.
Allez, c'était le collectif des gars avec Rapace qui nous a servi de cette petite intermède musicale sur 102.2 de Radio Canu. On vous parlait de qu'il fallait rien lâcher, que la mobilisation, elle se poursuivait, qu'on tournait pas la page de la mobilisation sociale. La preuve, l'initiative des 100 jours du Zbulb qui ont été lancés déjà depuis le 1er mai et qui continue.
Ah oui, j'attendais ça avec impatience. Hein. On va refaire un petit point Zbulb. J'en ai parlé il y a deux semaines et je me suis pris pour un journaliste sportif. Et franchement, ça ne m'a pas déplu. Les JO du Zbulb, c'est un classement qu'on peut retrouver sur le site 100jours-de-zbulb.fr qui référencie toutes les initiatives populaires contre les actions ou les déplacements du gouvernement. Et depuis la dernière fois, donc il y a deux semaines, le classement n'a pas beaucoup évolué. On retrouve toujours le Nord en première position grâce à un Zbulb monumental à Dunkerque devant le président et cinq de ses ministres. Viennent ensuite le Rhône et Paris qui clôt le podium avec sa troisième place. Paris qui, pour se maintenir à cette troisième place, a chaleureusement accueilli Clément Beaune, le ministre des Transports, avec des cheminotes et cheminots qui ont envahi un colloque près des Champs-Élysées où était présent le ministre le 23 mai dernier, avec de jolis fumigènes et en scandant que la SNCF n'était pas à vendre. Et puis ici même à Lyon, le vendredi 26 mai, nous nous sommes illustrés grâce à une présence devant, ou plutôt tout autour de la caravane du SNU. Pendant plus de 3 heures, on a pu voir des militantes et des militants, ainsi que des drapeaux tournés autour des stands à la gloire de la militarisation de la jeunesse. Les stands, hein, pas les drapeaux. Une chenille s'est formée, un flot ininterrompu de gens qui ont donc tenu plusieurs heures pour nasser, en quelque sorte, hein, c'est une belle ironie, le dispositif gouvernemental.
Une caravane du SNU qui ne fait pas recette, hein, visiblement, puisqu'ils étaient vendredi à Lyon, un bel accueil leur a été fait, et puis leur action a été complètement paralysée malgré tout le dispositif attractif et stéréotypé de clichés qu'ils ont voulu déployer.
Et je crois que c'est partout pareil en France d'ailleurs, partout elle passe.
C'est ça, et le lendemain ils étaient à Grenoble, et le lendemain ils ont dû carrément plier boutique, puisqu'il y a une centaine de militants qui occupaient la place avant eux, qui les ont empêchés de se déployer, ça a un petit peu poussé frité, mais finalement ils se sont vite rendus compte qu'à Grenoble, la caravane du SNU, elle ne pouvait pas s'installer, elle ne s'est pas installée, elle a plié boutique et elle est partie vers sa direction suivante. Donc là aussi, on peut que saluer l'action qui a été menée à Grenoble et l'action qui a été menée la veille à Lyon. En tout cas, voilà, partout où cette caravane du SNU passe, eh ben, il faut lui faire l'accueil qu'elle mérite, c'est-à-dire lui refaire comprendre que, qu'on n'en veut pas, qu'on n'en veut pas, que la canicule estivale aujourd'hui, elle ne nous permettra pas d'accepter les képis, les rangers, les casquettes bleues et les cocardes tricolores que cette caravane, elle vient nous présenter aux quatre coins de la France. Parce que au-delà de mettre le why à leur passage et de se faire plaisir sur un regain d'antimilitarisme, on veut quand même réaffirmer que ce qu'on refuse derrière la mise en place de ce service national universel, qui est un retour du quelque part du service militaire par la fenêtre, et ben c'est le refus d'une jeunesse au garde à vous, ce qui est déjà depuis quelques temps à la mode. Blanquer, dans l'ancien ministre de l'Éducation nationale, c'était déjà pas mal illustré pour mettre la jeunesse au garde à vous. C'était passé par la réforme du bac, par Parcoursup. On pourrait aussi parler de la répression policière lors des blocages de lycées et lors des mouvements sociaux. Ça, c'est autant de moyens qui sont aujourd'hui mis en place pour rendre la jeunesse plus docile, pour la mettre au pas, pour lui éviter d'être incontrôlable et d'être un élément parfois déterminant dans les mouvements sociaux. Et ben aujourd'hui, ce fameux service national universel, c'est qu'une attaque supplémentaire contre la jeunesse qui vise à lui inculquer un esprit d'obéissance aux règles, hein, ces mêmes règles qui créent et qui, on le sait, augmentent les inégalités dans la société, celles qu'on dénonce tous les mercredis dans cette émission Idées Noires. Et pour contrôler toujours plus, le SNU il va permettre en même temps le fichage de tous les jeunes de 16 à 25 ans qui vont passer à travers ces mailles. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus inacceptable. Alors ce SNU, on ne sait plus trop quelle forme il prend, parce que c'est des projets qui sont annoncés, abandonnés, ça passe de la journée d'appel à la défense, à un SNU obligatoire pour tous dès janvier prochain, un pas en avant, deux pas en arrière, pour mieux pouvoir en faire un autre. Finalement, ça ne sera pas obligatoire, en tout cas dans un premier temps, ça sera sur la base du volontariat. Mais la version actuelle qui est censée être promue par cette fameuse caravane qui malheureusement ils peuvent pas à cause des agitateurs qui viennent troubler leur caravane, ils peuvent pas réellement l'expliquer, mais nous on le sait, hein, ce qu'ils veulent expliquer à la jeunesse c'est qu'ils seraient invités à faire 12 jours de levée au drapeau au son de l'impérialisme français. Des jeunes qui seraient donc exploités pendant ensuite de 2 semaines à 12 mois dans ce que le gouvernement appelle l'engagement volontaire, si ça leur a plu. Ça veut dire que sous couvert d'intérêt général, les jeunes du SNU seraient utilisés pour en fait remplacer des emplois qui sont aujourd'hui occupés par des personnes qui ont un salaire et qui ont des droits individuels et collectifs. Ça, c'est encore une façon finalement d'habituer la jeunesse à la précarité. Et on pourrait dire que le gouvernement, il a qu'à mettre le nez dehors ces derniers temps pour voir que la jeunesse, pourtant, elle manque pas de combat, elle manque pas d'engagement et qu'elle a pas besoin de ça. Ce SNU, donc 12 jours sur la base du volontariat, au lever des drapeaux, au son de la Marseillaise, avec un bel uniforme, avec des encadrants qui seraient issus du monde associatif, de l'armée et de l'éducation nationale, à ce qui paraît. Et puis, on vous le dit, si jamais au cours de ces 12 jours, vous vous révélez une vocation, il y aurait des emplois qui seraient proposés, qui peuvent aller de 2 semaines à 12 mois pour perpétuer l'esprit de corps, l'esprit au service de la nation qui aurait été développé dans le cadre de ce SNU. On peut dire aussi quand même que la mise en place de ce SNU il coûterait au moins 2 milliards d'euros par an. Et alors, à ton avis, Rémi, ça serait payé par qui ces 2 milliards d'euros ?
Par Bernard Arnault en personne.
Par Bernard Arnault en personne, sur sa cagnotte personnelle. Non, on ne lui ferait pas cet affront. On risquerait de compromettre ses vacances d'été. Non, sur quel budget, à ton avis ? te le donne dans le mille.
Budget de la défense.
Alors, tout le monde a entendu qu'en plus, le budget de la défense a été...
Il a gagné 400 milliards.
Il a gagné 400 milliards. Il est en très forte augmentation, parce que, comme l'a dit très bien un haut gradé, faut savoir que si on veut défendre la paix, il faut préparer la guerre. Donc, ça justifie, bien évidemment, l'augmentation de ce budget de la défense. Donc, en toute logique, on pourrait se dire que ces 2 milliards qui servent à financer le SNU pourraient être pris dans ce budget-là. Eh ben non. Non, pas du tout. C'est l'éducation nationale qui va être mise au service et qui sera chargée de verser 2 milliards au bénéfice des militaires pris sur le budget de l'éducation nationale, qui lui, on sait, il va y avoir encore près de 15 000 suppressions de postes à la rentrée prochaine et des budgets qui ne cessent d'être pressurés année après année. Et ben voilà, on va faire des cadeaux. C'est un peu comme les fonds publics qui servent à faire des cadeaux aux entreprises privées. Et ben là, c'est une fonction sociale utile, l'éducation, qui va finalement se délester de 2 milliards au service d'une fonction sociale inutile, l'embrigadement militaro-nationaliste du SNU, avec ces 2 milliards qui serviront à le financer. Alors, vous avez tous compris ce qu'on en pense, hein, que cette dépense, elle est profondément indécente quand on voit comment le gouvernement siphonne les différentes caisses de la sécurité sociale, les retraites, la maladie et du chômage. Et ben, encore une fois, ces milliards, bien sûr, ils seraient bien plus utiles pour le service public d'éducation, voire pour la santé, voire pour le travail social commun des militaires. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce SNU, au-delà de l'embrigadement, au-delà de ce qui va nous coûter et l'atteinte qui porte aussi, au service public, eh ben c'est que c'est quand même un discours creux, mais derrière ce discours creux, c'est aussi un casernement qui est dangereux. Parce que si on écoute Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État chargée à la jeunesse et au SNU, être contre le SNU, c'est être contre la mixité sociale, la cohésion nationale et l'émancipation des jeunes. Donc, on imagine bien aujourd'hui ce que ça veut dire.
Oui, d'ailleurs, Sarah El Haïry qui a dit qu'elle avait lancé des enquêtes administratives, parce qu'on lit dans Politis le mois dernier, je ne sais pas si tu comptais en parler, mais qu'il y a du harcèlement sexuel, des agressions, des propos racistes, avec des colonels qui sont décrits comme étant agressifs, très méprisants, terrifiants. Voilà, tu parlais d'une fonction sociale inutile, on est même... Sur quelque chose de plus négatif que de neutre.
Oui, et puis alors quand elle dit que être contre le SNU, c'est être contre la mixité sociale, la cohésion nationale et l'émancipation des jeunes. Bon, alors on lui accorde la cohésion nationale, parfois on n'est pas forcément d'accord avec. Bien au contraire, on aimerait bien qu'elle vole en éclats au profit d'une cohésion de classe. Mais l'émancipation de la jeunesse et la mixité sociale, c'est certainement pas dans les casernes qu'elle va s'épanouir. C'est oublier que le casernement, on dit d'ailleurs aujourd'hui, on ne dit plus casernement, on dit séjour de cohésion. Ce séjour de cohésion d'un mois, il est encadré par des militaires, comme tu viens de dire, avec tous les travers d'autoritarisme, d'harcèlement et de déviance et de perversité que ça peut entraîner. Que l'uniforme, que les parcours du combattant, que les formations sur la défense et la sécurité intérieure, etc. C'est tout simplement un kit d'endoctrinement qui permet de banaliser le rôle de l'armée. Et le militarisme et le nationalisme, il suffit de regarder à l'est de l'Europe pour voir où ça nous mène et quelles conséquences désastreuses ça produit. Et on n'a pas envie de voir ça ici, on n'a pas envie de le voir là-bas non plus, mais en tout cas on n'a pas envie de voir cet esprit guerrier, nationaliste et viriliste continuer à se développer. Parce qu'après, si on laisse faire, tout ça, ça devient acceptable. Aussi bien le contrôle des frontières, les opérations visant à détruire les bidonvilles, à expulser les habitants à Mayotte, par exemple. Et tout ça, ça devient acceptable parce que c'est peut-être dans l'ordre de ce qu'ils appellent de la cohésion nationale. Et puis, tu parlais de mauvais traitement. Hein, on peut citer des exemples. Hein, les pompes en pleine nuit, comme punition collective, par exemple, les malaises qui ont été faits par certains jeunes après plusieurs heures de garde à vous, les simulations de fusillade, où en effet, des officiers ont bien rigolé de voir des jeunes se pisser dessus quand on a simulé de les fusiller. Je crois que quand on nous parle d'émancipation de la jeunesse, avec ces exemples-là, on peut comprendre qu'on aura vu quand même mieux en matière d'émancipation. Et pourtant, le président, lui, il reste comme sur la réforme des retraites, il reste droit dans ses bottes, puisqu'il a déclaré dernièrement « Je sais pouvoir compter sur les militaires et les anciens militaires pour faire face au défi de renforcer les forces morales de la nation, en particulier de la jeunesse. » Là aussi, c'est accablant, ça donne envie de vomir, parce qu'en réalité, c'est pas la peine de caricaturer les militaires. On les connaît très bien, ils s'en chargent eux-mêmes. Tu l'as dit, hein, une enquête administrative a visé récemment deux militaires chargés de l'encadrement de volontaires. D'ailleurs, on peut citer que 37% de ces volontaires, parmi ces jeunes, ils sortent d'où socialement ? 1 sur 3 des volontaires au SNU, c'est des enfants de militaires et de flics. Je ne sais pas s'ils ont été vraiment volontaires ou pas, ou si c'est à grand coup de taloche qu'ils y sont allés. En tout cas, on voit comment la reproduction sociale, elle va bon train aussi. Et puis, tu l'as dit, hein, les faits rapportés de harcèlement sexuel, d'agression et de racisme, c'est tout un lot qui ont lieu dans ce SNU. Du coup, face à cette réalité, pour faire la pub de services militaires relookés, on en a parlé au début, le gouvernement s'est lancé dans cette fabuleuse tournée de sa caravane de promotion à travers toute la France. C'est le Tour de France, non pas du maillot jaune, mais de la caravane du SNU. C'est quand même gonflé d'avoir lancé ça en plus en plein mobilisation, en plein mouvement sur les retraites, puisque ça a commencé au mois de mars, ça doit se terminer là au mois de juin. Mais il n'y a pas une ville où cette caravane, elle n'a pas eu à faire face aux manifestants qui sont venus en nombre exprimer leur opposition à ce projet de mise au pas de la jeunesse. On a vu des campements vides, on a vu comme à Lyon, entourés et nassés par une chenille joyeuse et militante. On a vu des campements pliés au bout de quelques heures, comme à Grenoble samedi. Et donc, ça montre bien que l'opposition au SNU, c'est quelque chose qui est sous les projecteurs. Et que malgré ça, le gouvernement, il n'a pas honte et il maintient pourtant sa tournée. Parce que ce gouvernement, il est droit dans ses bottes, comme avec les 49-3 et la répression. On connaît finalement le penchant de la Macronie pour le passage en force. Et que face au mouvement social et la peur d'un embrasement de la jeunesse, le gouvernement, il a pour l'instant reculé sur l'obligation du SNU, puisqu'au départ, le projet était que ça soit obligatoire. Il est passé simplement au fait que ça soit volontaire. Mais attention, il faut rester vigilant, parce que ça pourrait bien, ce qui est sorti par la porte, revenir par la fenêtre. Parce que malgré ce que racontent Macron et ses sbires, l'objectif, c'est bien de le rendre obligatoire à terme. Dès la rentrée prochaine, en tout cas, le SNU devra être généralisé progressivement par les lycées et des classes à projet. Là aussi, il faudra que les personnels, les travailleurs et travailleuses de l'éducation nationale y soient fermes et déterminés pour refuser de mettre en place ça. La carotte, bien sûr, pour les personnels des lycées qui engageront leur classe sur 12 jours de caserne et qui seront récompensés par le pacte, c'est bien sûr des primes. Et pour les élèves volontaires, c'est tout simplement des points et des avantages dans Parcoursup pour avoir leur orientation qu'ils préfèrent. On voit bien que c'est la carotte pour les travailleurs comme pour les jeunes. Le bâton, on le sait, c'est la mort sociale pour celui et celle qui refusera par tout un arsenal de mesures. C'est celui qui refusera, si jamais c'est rendu obligatoire, ça sera l'impossibilité de passer le bac, le permis, de s'inscrire à la fac, de se présenter à un concours de la fonction publique. C'est ce qu'on dit, c'est véritablement la mort sociale et c'est vraiment pour ça qu'il faut tout faire pour empêcher que ce SNU deviennent obligatoires. Et bien sûr, au fond de nous, militants libertaires et militants anarchistes, résonne encore et résonne toujours ce côté d'antimilitarisme qui nous fait dire que l'armée, ça pue, ça tue et ça pollue et qu'elle est toujours du côté des puissants. Il n'y a pas d'armée du peuple, il n'y a pas d'armée au service de la nation. L'armée, elle est au service de l'État et des classes dirigeantes et que l'émancipation de la jeunesse et au-delà du peuple, elle passe pas par l'embrigadement et l'encasernement. Voilà pourquoi on continuera à se mobiliser profondément contre ce SNU. Et on va faire une dernière pause musicale dans cette émission Idées Noires avec justement un morceau qui tombe à propos. On va retrouver Boris Vian qui nous chante Le Déserteur parce que peut-être que ça sera la dernière chose à faire et à voir. Boris Vian interprété par notre ami et camarade Serge Giroyo.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir. partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Déserteur de Boris Vian, interprété par Serge Djeroyo, pour illustrer tout le monde qu'on pense de ce service national universel. Allez, vous êtes encore dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, pour une dizaine de petites minutes. Idées Noires, tous les mercredis de 20h à 21h.
Et cette semaine, je voulais, on va parler racisme, hein, je voulais vous parler de la manière dont on traite les étrangers en France à travers deux exemples dramatiques. Le premier, c'est l'aide médicale d'État, l'AME, pour les personnes étrangères, qui est à nouveau dans le viseur de la droite et de l'extrême droite parlementaire. C'est ce qu'on peut lire notamment sur le site Basta Media, qui nous explique qu'avant l'annonce du report de projet de loi immigration au mois de juillet, le Sénat avait adopté mi-mars un amendement visant à supprimer l'aide médicale d'État pour la remplacer par une aide médicale d'urgence plus restrictive. Nous devons stopper la distribution d'aide incontrôlée qui crée un appel d'air migratoire que la France ne contrôle plus du tout. Ça, ce sont les mots de la sénatrice Les Républicains Françoise Dumont à l'origine de cet amendement. L'AME est une aide sociale de prise en charge des soins pour les personnes étrangères en situation administrative irrégulière. Depuis sa mise en place en 2000, elle n'a cessé de subir des coups de boutoir du législateur, expose Mathias Thibault, chargé de projet pour la CIMADE en Île-de-France. En 2011 puis en 2015, la prise en charge de la PMA, des cures thermales et des médicaments à faible remboursement a été supprimée du panier des soins. En 2018, lors de la dernière loi immigration de Gérard Collomb, qu'on connaît bien ici, le Sénat avait déjà tenté de supprimer l'AME, tentative mise en échec à l'Assemblée nationale. Puis, la loi de finances de 2019 a restreint encore le panier de soins lors des 9 premiers mois d'AME. Derrière cette chronologie se dresse une cohérence idéologique, l'idée que tous les étrangers sont des fraudeurs, l'idée du tourisme médical, le prétendu appel d'air, décrypte Mathias Thibault. C'est insupportable de faire croire que ces personnes viennent pour se la couler douce alors qu'elles arrivent dans des états de santé dégradés à cause du parcours migratoire et se sont maintenues dans une situation administrative précaire, fragilisant leur santé, ajoute-t-il. La réforme de 2019 exige 3 mois de résidence sur le territoire avant de pouvoir accéder à l'AME. Cela a un impact terrible, commente Olivier Lefebvre, médecin coordinateur du pôle médical du Comité pour la santé des exilés, le COMED. Certains viennent avec des cancers, sont dans des situations dramatiques et rien n'est prévu, aucune assurance, aucune aide sociale pendant cette durée. Il existe bien la possibilité d'être pris en charge à l'hôpital via le dispositif des soins urgents et vitaux, mais ce dispositif reste ponctuel et n'équivaut pas à une couverture maladie. L'article décrit le parcours du combattant que c'est pour ces gens d'obtenir une aide médicale, notamment le dépôt de dossier qui se fait sur rendez-vous, un rendez-vous à prendre via le 3646, numéro payant de l'assurance maladie. Or, plus d'un appel sur trois ne débouche pas, selon l'enquête. Hier, des bénévoles ont appelé dans le 93, il n'y avait plus de créneaux. Il n'y avait plus de créneau de rendez-vous avant au moins un mois, témoigne Salimata Sidibé, chargée de projet chez Médecins du Monde, sachant qu'ensuite, le temps de traitement du dossier est encore d'un mois, voire deux. Ces obstacles dissuadent, souligne-t-elle. Il y a aussi le témoignage d'une femme âgée dans un rapport interassociatif qui explique « Je ne comprends pas les nouvelles procédures, je n'ai pas Internet, je n'ai pas les moyens de charger des crédits sur mon portable ». Voilà donc un extrait de cet article daté d'hier et qui retrace un véritable parcours du combattant pour les étrangers afin de se faire soigner en France. Vous pouvez le retrouver sur le site Basta Media. Et pour ces personnes étrangères dans la France étatiquement violente de Macron et Darmanin, la dernière case avant l'expulsion quand on est en situation régulière, c'est la case CRA, les centres de rétention administrative. Le collectif Abat les CRA nous apprend que dans la nuit de jeudi à vendredi, un prisonnier du CRA de Vincennes est mort après avoir été, disent-ils, tabassé par les flics et ne pas avoir été soigné par l'infirmerie ni le médecin du centre. À l'intérieur, une grève de la faim était déjà en cours pour protester contre les violences policières et les mauvais traitements. Depuis, la colère est montée d'un cran et plusieurs autres prisonniers ont été frappés et blessés. Les trois bâtiments sont aujourd'hui en grève de la faim. Il y a eu un appel à manifester dimanche 28, c'est passé, mais je voulais quand même vous lire un extrait du communiqué d'appel à manifester parce qu'il donne un peu de contexte et aussi il donne la parole à ces victimes de la violence d'État. Vendredi 26 mai, un retenu du centre de rétention administrative de Vincennes a été retrouvé mort au petit matin par son compagnon de cellule. Il s'était fait tabasser la veille et l'avant-veille par les flics. Cela fait une semaine qu'il était malade, qu'il demandait à aller à l'hôpital, l'infirmerie refusait et lui disait juste de prendre des Doliprane. Ici, c'est comme ça, t'es jamais bien soigné. Pour voir un médecin, t'es obligé de gueuler, de te mettre en grève de la faim, explique un retenu. Les keufs l'ont tapé. Ils l'ont mis à l'isolement, et là, tu sais comment ça se passe, il n'y a pas de caméra, et les flics te frappent, poursuit-il. Les flics l'ont ensuite ramené dans sa chambre jeudi. Le soir, il avait du mal à respirer, il me disait qu'il allait mourir, il avait du mal à manger, car ils lui ont cassé des dents. J'ai été à l'infirmerie pour lui, mais ils ne se sont pas déplacés, ils n'ont pas voulu venir le voir. Cela faisait un mois que je le connaissais, on s'entendait bien, raconte un autre retenu du CRA. Les pompiers, dont l'accès au centre est régulièrement empêché par les flics, n'ont pas réussi à le réanimer. Les flics ont pris ses affaires, son téléphone et commencé à dire qu'il était mort d'une overdose. Ils vont tout faire pour faire croire que c'est pas eux que c'est pas à cause d'eux, mais nous on sait ce qui s'est passé, explique un autre retenu. Dans ce qui est l'un des plus grands centres de rétention de la métropole, l'impunité des keufs est telle qu'ils ont ensuite continué à provoquer les retenus. Ce matin, nous on pleurait et la police rigolait. Voilà, donc on rappelle que les CRA ne sont ni plus ni moins que des prisons pour des gens considérés comme illégaux qui se retrouvent enfermés dans l'attente d'être envoyés dans un pays qu'ils ont fui pour cause de misère, de guerre et
de persécution, discrimination ou autre, bien évidemment. Et qu'on devrait alors leur fournir un accueil digne de ce nom et non pas celui-ci, celui des barbelés, des prisons et de la violence policière. Encore une belle forme d'expression de la violence d'État et peut-être de la cohésion nationale, tiens, comme on y revient. Ouais. C'est malheureusement avec ces tristes paroles, Rémi, qu'on va terminer cette émission. On rappelle qu'on se retrouve mercredi prochain, en tout cas ça sera l'autre équipe, Daniel et Jou qui seront à l'antenne mercredi prochain pour une nouvelle édition d'Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire de 20h à 21h comme tous les mercredis. Moi je vous retrouve juste après notre générique pour la bande son de nos révoltes Et puis on se retrouve tous et toutes mardi prochain dans la rue, mardi prochain pour cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle, pour cette nouvelle journée de lutte. On rappelle, on lâche rien, on lâche pas l'affaire, c'est pas fini, on continue, on est toujours là. Journée de grève interprofessionnelle, journée de lutte avec une manifestation à Lyon à 11h à la manufacture des tabacs. Voilà, c'était Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire.
Bonne soirée et à mardi dans la rue.